Vous écoutez RTL.
Midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30.
Stéphane Carpentier, Bénédicte Tassard.
Bonjour à vous tous, ravi de vous accueillir dans RTL Midi en espérant que vous allez tous bien malgré le froid polaire. RTL Midi, 90 minutes pour vivre en direct l'actualité. Nous expliquons et vous commentez. Bénédicte, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vos appels dès maintenant pour dialoguer le 32-10 et le débat enrichi comme d'habitude sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, vous le savez, c'est votre émission. L'actualité, Bénédicte, c'est le recours aux ordonnances pour la réforme de la SNCF.
Édouard Philippe affirme qu'il ne cherche pas l'affrontement, avec personne, mais il passera bien par les ordonnances. C'est la fin du statut à vie des cheminots pour les nouveaux entrants. Le Premier ministre qui en même temps calme le jeu et annonce 2 mois de concertation avec les syndicats.
Et première réaction dans RTL Midi, Didier Aubert de la CFDT Cheminots. On attend des réponses et des réponses à la question. Les syndicats vont-ils appeler à la grève ?
Réduire de moitié l'usage des pesticides, c'est l'objectif de la FNSEA, le principal syndicat agricole, annonce un plan anti-glyphosate et autres, un plan moins radical que celui souhaité par le gouvernement. L'échec de la diplomatie en Syrie, le cessez-le-feu dans la Ghouta orientale n'est pas respecté. L'Europe veut maintenant faire appel à l'humanité de Vladimir Poutine. La tuile pour le PSG, une semaine avant d'affronter le Real Madrid, la blessure de Neymar inquiète. Et puis, vacances pour certains, froid pour tous, vous restez au chaud devant un jeu vidéo peut-être. Le marché est en plein boom, plus 18% de chiffre d'affaires sur un an.
C'est le carton du moment, on va en dialoguer avec vous au 3210, vos appels dès maintenant pour évoquer cette folie des consoles et des jeux. Est-ce que vous êtes des adeptes? On posera des questions à un chroniqueur de jeux vidéo, c'est Julien Tellou qui sera avec nous. Et vos appels dès maintenant, 3210.
La météo, la France grelotte, les écoles s'adaptent, ceux qui travaillent à l'extérieur souffrent. Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Vous nous aviez prévenu, il fait froid partout.
Et oui, le Moscou-Paris est arrivé ce matin avec par exemple moins 16 degrés en température ressentie dans l'Est cet après-midi. On prévoit moins 4 degrés à Mulhouse sous abri, moins 3 degrés à Nancy, 0 degrés à Lille, donc pas de dégel dans le Nord-Est. 1 degré à Paris et Limoges, 5 à Nîmes et Nice et 10 degrés à Ajaccio. Alors avec un temps qui reste très ensoleillé, ce sera quand même un petit peu plus nuageux cet après-midi au nord de la Seine et dans le Nord-Est avec toujours la bise du Nord qui souffle sur une bonne partie du pays qui renforce cette sensation de froid. Et puis dans le Sud-Est, attention, on a 3 départements qui sont placés en vigilance orange, neige, verglas, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et le Var avec des chutes de neige qui vont s'intensifier cet après-midi.
Et bien sûr, tous les détails avec Patricia juste avant 13h. Après 13h, ce sera une histoire, un jour sur la Terre et à 13h50, le rire de Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne la réforme de la SNCF. Alors soutenez-vous la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants? Vous dites oui sur notre site à 74%, le non est à 22%. Vos appels au 3210, le standard est ouvert. Et un premier coup de fil nous arrive de Loire-Atlantique avec Cyril, il est cheminot.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ben aujourd'hui, le statut est déjà bien compromis via toute la sous-traitance qui est faite dans l'entreprise. Il y a de moins en moins d'embauches et encore moins au statut. Je ne vois pas en quoi cette modification de statut, mis à part une image de la part du gouvernement, changera pour la dette de la SNCF.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Oui aux ordonnances, mais oui aussi à la concertation. Ce matin, Édouard Philippe a lancé la réforme de la SNCF et le Premier ministre n'y va pas par 4 chemins. Le gouvernement recourt bien aux ordonnances, mais il annonce également 2 mois de dialogue avec les organisations syndicales. En tout cas, Éric Vanier, c'est sûr, terminer le statut à vie pour les nouveaux cheminots.
Oui, là-dessus, pas vraiment de marge de manœuvre pour les syndicats. Le chemin est balisé. Les anciens garderont leur statut, mais les nouveaux embauchés ne pourront plus y accéder. Avec l'ouverture à la concurrence, difficile de faire autrement, s'est justifié ce matin le Premier ministre.
La SNCF ne peut rester la seule à recruter au statut. Donc, aux nouvelles générations, aux apprentis, à tous ceux qui veulent s'engager dans la SNCF, nous disons qu'ils bénéficieront des conditions de travail de tous les Français, celles du Code du travail. À l'avenir, à une date qui sera soumise à la concertation, il n'y aura plus de recrutement au statut.
Et le gouvernement veut faire vite puisqu'il entend boucler cette réforme avant l'été. Pour cela, il agira, s'il le faut, par ordonnance, tout en menant parallèlement une concertation avec les organisations syndicales sur 4 thèmes. La modernisation sociale, on revient là à la question du statut, l'ouverture à la concurrence, l'organisation de l'entreprise et sa gouvernance et l'amélioration des services rendus au public. 2 mois de discussions sont prévus au ministère des Transports, mais aussi au sein de l'entreprise avec la direction. Après, c'est-à-dire dès le mois de mai, on passera à l'étape législative avec les ordonnances si nécessaire. C'est en tout cas le calendrier du gouvernement.
Donc Eric, ça c'est pour ce qui va bouger. Le Premier ministre touche au statut des nouveaux agents et de l'entreprise. Il y a quand même des lignes rouges qu'il ne veut pas franchir.
Oui, pas question de privatiser la SNCF. Même si l'entreprise devient une société anonyme de droit commun, le capital restera public à 100%. Édouard Philippe s'y engage. Pas de réforme non plus du régime spécial de retraite des cheminots, en tout cas pas dans l'immédiat. Le sujet sera traité l'an prochain dans le cadre de la réforme générale des retraites et démenti du Premier ministre sous l'objectif de fermer 9000 km de petites lignes. La réforme que nous engageons n'est pas faite pour ça, a-t-il dit. Et effectivement, ce n'est pas au menu des concertations à venir.
Voilà, explication signée de notre spécialiste Éric Vanier. Nous voilà fixés donc sur le contenu de cette réforme, sur l'avenir de la SNCF. Mesurons maintenant ce qu'en pensent les syndicats. Très inquiets avant cette prise de parole. Bonjour Didier Aubert.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la CFDT Cheminots. Il y a toujours de l'inquiétude chez vous, par exemple. Comment vous réagissez à la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants à la SNCF?
Nous avions dit statut et ordonnances, c'est des lignes rouges et de la provocation. Et le Premier ministre va bien au-delà de ces lignes rouges-là, puisque nous aurions... Nous le renvoyons à ses chères études, et qu'il aille s'informer. Lorsqu'il annonce, par exemple, qu'il ne touche pas au régime de retraite, comme vous l'annonciez dans vos titres. Savoir que le statut, il n'y a qu'une ligne sur le régime de retraite dans le statut, c'est-à-dire que les agents au statut sont affiliés à un régime de retraite spécial. Celui des cheminots. Et derrière ça, connaissez-vous un régime qui, lorsque vous lui coupez son robinet d'alimentation, il puisse perdurer? Donc, en touchant au statut, en supprimant le statut pour les nouveaux embauchés, le Premier ministre préempte le débat sur les retraites de l'année prochaine en condamnant d'emblée ce régime spécial des cheminots. Et pour la petite histoire, il y a un rapport, et il devrait, ça va vous intéresser, il y a un rapport Bonnet-Galzi, une conseillère d'État, qui a dit que ce rapport-là, en supprimant le régime spécial des cheminots, allait coûter, puisqu'il n'y aurait plus de cotisants, 3 milliards de plus dans les 15 prochaines années à l'État. Mais ça, c'est bien au-delà de l'espérance de l'ère Macron.
Donc, selon vous, Didier Aubert, il y a quand même des lignes rouges qui sont franchies.
Mais clairement. Et quelles ont été les annonces? Les annonces ont été sur culpabiliser, mettre en avant le bouc émissaire, la SNCF, qui serait la responsable de la dette d'aujourd'hui, que les cheminots seraient les co-responsables de cette dette à travers leurs coûts, et globalement, les gouvernements successifs des 30 précédentes années ne seraient pas responsables de la situation actuelle.
Alors le Premier ministre a dit tout à l'heure qu'il ne cherchait pas un affrontement, et avec personne. Est-ce qu'il va y avoir affrontement? Est-ce qu'il va y avoir mobilisation? Est-ce que vous allez être en grève? Et plutôt que celle qui est annoncée le 22 mars prochain?
Dans le cadre d'une concertation. En général, on ne vous donne pas le résultat de la concertation avant d'avoir discuté. Or, aujourd'hui, on vous dit, concertation, si vous êtes gentil, on fera une loi, si vous n'êtes pas gentil, ça sera ordonnance. Donc, clairement, c'est un débat de dupes visant à mettre en avant en bouc émissaire les cheminots, et derrière ça, la CFDT n'attendra pas le 22 mars pour faire des propositions d'action, parce qu'effectivement, on voit bien que le gouvernement est pressé, puisque sa loi d'habilitation, il devrait la faire pour les ordonnances dès mars. Donc on n'a pas le temps d'attendre une grève ou une action qui a lieu avec la fonction publique. Le problème du ferroviaire est suffisamment important aujourd'hui pour qu'on le traite et que les cheminots se mobilisent sur leur sujet. Quel sujet du ferroviaire?
Donc une grève dans les jours à venir.
Il est clair qu'on pourrait profiter des 80 ans de la SNCF, puisque le président Pépine nous l'a annoncé le 12 mars, pour dire qu'effectivement, la SNCF, c'est 80 ans d'histoire avec des réussites. Mais ce qu'on aura retenu, et ce que les cheminots risquent de retenir, c'est qu'en cadeau d'anniversaire, on puisse leur supprimer leur statut. Quel cadeau!
Voilà, des grèves très bientôt, voilà ce que vous nous annoncez. Merci beaucoup Didier Aubert de la CFDT Cheminots. Est-ce que vous soutenez, auditeurs, la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants? Vos appels dès maintenant au 3210, 3210 et vos sentiments sur les réseaux sociaux et notamment le compte Twitter RTL Midi.
On vous avait prévenu, le froid venu de Sibérie s'est installé sur le pays pour plusieurs jours. Ce matin, il faisait moins 8,4 degrés à Nancy, moins 16 degrés en ressenti, moins 6,5 degrés à Châteauroux, moins 15 degrés en ressenti, moins 4 degrés à Paris, moins 10 en ressenti. Des températures 10 degrés à peu près en dessous des normales de saison. Les centres d'hébergement pour les sans-abri sont pleins. Le plan grand froid a été activé dans 37 départements. 3 départements de la région PACA sont également en vigilance orange, neige et verglas jusqu'à ce soir. Attention donc sur les routes. Et les pouvoirs publics vous conseillent de réduire votre consommation électrique entre 18h et 20h ce soir. Même si l'alimentation électrique n'est pas menacée, il n'y aura pas de coupure. Il a fait glacial ce matin aussi sur le chemin de l'école, dans les cours de récréation ce midi. Terminé les vacances ce matin pour la zone A. Guillaume Friction est allé à la rencontre des familles devant une école maternelle en Auvergne avec des enfants très très emmitouflés.
Oui, reprendre le chemin de l'école, ce n'est déjà pas forcément facile en temps normal, mais lorsqu'il fait moins 7 degrés comme ce matin, le moral et l'énergie se font plutôt discrets. En revanche, bonnets et écharpes sont omniprésentes pour les enfants et les parents ont dû s'adapter.
Pull tricoté maison avec un sous-pull et puis voilà, parfait. Et pull en laine, il n'y a rien de mieux.
On met une polaire en plus et puis voilà.
Alors Julien dépose son fils Enzo de 5 ans dont seuls les yeux sont encore visibles. Mais ce jeune papa a choisi de positiver malgré les températures négatives.
Bon, il y a du soleil aujourd'hui, ça va aller. Il fait froid mais ça un froid sec, donc on est bien. L'hiver est bientôt fini. Enfin, j'espère.
Alors, dans cette école maternelle, toute la journée se fera entre quatre murs et pour occuper les tout-petits, des jeux, des livres et des films, pas question de risquer le coup de froid. Adriana Simoes est surveillante de l'école.
Pour un enfant de entre 3 et 5-6 ans, le problème, c'est qu'ils ont besoin de sortir. Et voilà, ils en ont besoin et le problème, c'est qu'on peut pas, donc il faut essayer de les calmer au maximum.
Bon, et même vous, vous avez un peu froid, non?
Oui. Oui, j'ai froid, là.
Et aujourd'hui, les températures resteront négatives dans tout le département.
Merci beaucoup Guillaume Friction à Chamalières, aux portes de Clermont-Ferrand pour RTL. Ce froid sibérien, il est surtout pénible pour ceux qui travaillent dehors, dans le BTP, sur les routes, sur les marchés notamment. Les salariés peuvent-ils refuser de s'exposer à cet air glacial? Y a-t-il des dispositions spécifiques dans le droit du travail? Voilà des questions, on attend vos réponses, Christophe Ponzio.
Alors oui, dans les deux cas, d'abord, c'est à l'employeur d'agir en cas de grand froid. Le Code du travail prévoit que votre patron a l'obligation d'assurer votre sécurité et de protéger votre santé physique et mentale. Autrement dit, l'entreprise doit vous fournir des équipements de travail adaptés si vous êtes dehors, des gants, des masques ou des anoraks qui ne vous empêchent pas, évidemment, d'effectuer vos tâches habituelles. Plus de pauses aussi peuvent être aménagées, notamment dans des locaux chauffés, avec un accès accru à des boissons chaudes. Le but est de limiter les accidents du travail. Pour autant, vous pouvez aussi refuser de travailler dans ces températures extrêmes. Un droit de retrait est possible en cas de défaut de protection ou de danger grave et imminent pour votre santé. Dans ces cas-là, vous devez fonder vos inquiétudes sur un motif raisonnable. Si l'équipement fourni est par exemple insuffisant ou si les locaux ne sont pas assez chauffés, les inspecteurs du travail peuvent réaliser des contrôles à ce sujet.
Voilà toutes les réponses en lancé plus grâce à Christophe Ponzio. Vous travaillez dehors aujourd'hui, vous souffrez du froid au boulot, vous n'avez pas eu le droit de vous mettre au chaud. On vous écoute bien sûr grâce à vos appels dès maintenant au 3210. Le standard est pour vous, c'est 3210 sur votre téléphone.
On cherche une explication à Avoria, en Haute-Savoie. Samedi, en fin d'après-midi, vous le savez, deux frères de 10 et 12 ans ont chuté d'une falaise. Après être partis skier tout seul, le frère aîné est décédé, son cadet est blessé sérieusement, mais son pronostic vital n'est pas engagé. C'est maintenant l'heure de l'enquête pour les gendarmes. Arnaud Grange, sur place, on tente de reconstituer le trajet de ces enfants.
Oui, c'est le parcours des deux frères sur le domaine skiable a rapidement pu être établi grâce à la puce de leur forfait. Les enquêteurs essayent désormais d'éclaircir plusieurs zones d'ombre pour mieux comprendre les décisions prises par ces enfants. Le chef d'escadron Lionel Cotte, il commande la compagnie de gendarmerie de Thonon-les-Bains.
Quel est le cheminement précis, jusqu'où ils sont allés, à quel moment ils ont glissé, quelles sont les circonstances, bien recenser un petit peu ce qui s'est passé au niveau des remontées mécaniques et faire la lumière sur tout ça.
Les enquêteurs comptent surtout sur l'audition du jeune frère rescapé. Concernant la météo, il faisait beau au moment du drame. Quant à la sécurité autour des pistes, elle n'est pas remise en cause à ce stade de l'enquête. Michael Riskert est le directeur de l'office de tourisme d'Avoria.
Là, on est vraiment dans une situation, je pense qu'on n'aurait pas pu imaginer. C'est-à-dire des enfants qui aujourd'hui prennent des remontées mécaniques, décident de déchausser, de laisser leur ski, de partir à pied et d'aller en plus dans un sens inverse au domaine. Malheureusement, je pense que même avec toute la prévention possible, on n'aurait pas pu imaginer ce scénario.
Cet accident dramatique est l'occasion de rappeler que des enfants ne doivent jamais skier seuls sur des pistes.
Arnaud Grange, l'envoyé spécial de RTL à Avoria en Haute-Savoie. Une pause dans RTL Midi et dans un instant, le salon de l'agriculture où la FNSEA a présenté ce matin son plan pesticides.
RTL Midi, Stéphane Carpentier,
Bénédicte Tassard.
Les agriculteurs ont bien compris qu'il fallait trouver une porte de sortie dans l'affaire du glyphosate et des autres produits phytosanitaires. Des agriculteurs qui en ont assez d'être traités d'empoisonneurs. Le président de la République l'a répété ce week-end. Emmanuel Macron souhaite la suppression totale du glyphosate en 3 ans. La FNSEA, premier syndicat agricole, a donc présenté ce matin un plan 250 solutions. Virginie Garin, objectif dans un premier temps, réduire de moitié l'usage des pesticides.
Oui, car zéro pesticide, c'est impossible, selon Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, mais les réduire fortement, les agriculteurs vont tout faire pour.
Aujourd'hui, les agriculteurs ont entendu l'attente de la société, mais les agriculteurs sont lassés d'être toujours critiqués, stigmatisés, pointés du doigt. Ils veulent montrer qu'ils sont professionnels et que la solution sera dans nos champs, dans nos vergers, dans nos vignes. Tous n'avanceront pas au même rythme, en fonction bien sûr de leur réalité économique. Mais si tous s'y mettent un peu, et si certains s'y mettent beaucoup, nous aurons des résultats, c'est certain.
Alors la FNSEA a répertorié 250 solutions qui existent déjà ou qui sont en phase de test dans les laboratoires, des pulvérisateurs plus précis, des variétés de choux ou de blé qui résistent aux insectes, des drones pour survoler les champs, pour surveiller l'arrivée des maladies. Jean-René Meunier, par exemple, produit des pommes de terre en Bretagne.
Si demain, on est capable de détecter la petite zone du champ où le mildiou s'est posé, le champignon a commencé à attaquer, un peu comme la grippe, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la grippe commence d'abord par avoir de la fièvre et après, la personne devient contaminante. Si on arrive à détecter les plantes malades avant qu'elles ne commencent à libérer des spores, on va traiter peut-être en haut à gauche du champ sur 10 mètres sur 50.
Mais il faudra l'aide de l'État pour financer la recherche. La FNSEA compte signer avant l'été un contrat avec le gouvernement pour mettre en œuvre toutes ces mesures.
Merci Virginie Garin depuis le Salon de l'Agriculture pour RTL, Porte de Versailles à Paris. Alors vous êtes agriculteur, vous utilisez des pesticides, vous êtes consommateur et vous faites attention à votre assiette. On attend bien sûr vos réactions à ces propositions de la FNSEA. Ça se passe dès maintenant au 32-10.
Tout ce qu'il faut savoir sur le Salon de l'Agriculture sur RTL et aussi dans Le Parisien. Aujourd'hui en France.
Gérald Darmanin n'en a pas terminé avec les accusations d'abus de faiblesse à son encontre. Cette fois, c'est la plainte de la deuxième présumée victime qui est détaillée par le site Mediapart. Et selon cette jeune femme, Guillaume Chiez, le ministre de l'Action et des Comptes Publics aurait abusé d'elle, mais ne l'aurait pas forcée à avoir des relations sexuelles.
Exactement. Cette fois, les faits auraient débuté en septembre 2015. À l'époque, Gérald Darmanin est maire de Tourcoing. La plaignante, une habitante de la ville, l'aurait sollicité afin de régler un problème de logement insalubre. Selon ses propos recueillis par nos confrères de Mediapart, la jeune femme aurait invité le maire chez elle. Avant de se quitter, Gérald Darmanin lui aurait pris la main, posé sur son sexe. « J'ai compris ce qu'il attendait, je lui ai fait une fellation », explique la plaignante. « Je voulais lui faire plaisir pour qu'il s'occupe de mon dossier ». Cette scène se répète à nouveau quelques mois plus tard dans un hôtel en région parisienne. En parallèle, Gérald Darmanin est bien intervenu auprès des bailleurs sociaux de la métropole lilloise. En atteste différents courriers et SMS que la jeune femme a remis à la police. La question qui se pose, c'est de savoir si Gérald Darmanin a utilisé sa position d'élu pour obtenir des faveurs sexuelles. Y a-t-il eu abus de faiblesse ? Non, juré les yeux dans les yeux le ministre la semaine dernière.
Guillaume Chiez, Gérald Darmanin sera l'invité d'Elisabeth Martichoux demain sur RTL à 8h45. Pas de rapport de force entre Jean-Marie Le Pen et sa fille. L'ancien président du Front National n'ira pas au congrès de son parti les 10 et 11 mars prochains à Lille. Il l'a annoncé ce matin sur RTL. Il n'était pas le bienvenu après son exclusion, même si la justice lui avait donné raison.
L'actualité à l'étranger, c'est la Syrie. Presque 48 heures que la trêve de 30 jours a été décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU et les frappes aériennes continuent sans cesse. Au moins 10 morts ce matin dans un bombardement sur la Ghouta orientale. La diplomatie des Nations Unies a donc échoué, Brice Dugénie, mais il reste une carte à jouer. C'est l'Europe qui peut implorer la pitié d'un certain Vladimir Poutine.
Oui, c'est le seul levier dont dispose la communauté internationale. Convaincre le président russe que la situation humanitaire n'est plus tenable en espérant qu'il se laisse attendrir. Vladimir Poutine est le seul à pouvoir retenir la main lourde de Bachar al-Assad et la communauté internationale n'a aucun moyen de pression suffisant pour obliger la Russie et son allié syrien à faire cesser le massacre. La résolution de l'ONU, amendée, revue, réécrite sous la pression de Moscou, ne permet pas la mise en place d'une trêve globale. Alors les appels au cessez-le-feu se multiplient. Emmanuel Macron vient encore il y a quelques minutes de faire part de sa vive préoccupation. 48 heures après le vote, les bombardements se poursuivaient encore ce matin sur la Ghouta orientale et la mise en place de couloirs humanitaires est impossible pour les 400 000 civils prisonniers. Alors demain, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, fin négociateur, se rendra à Moscou. Il tentera en personne cette fois-ci de convaincre les diplomates russes. Mais la tâche s'annonce très difficile et ce cessez-le-feu de 30 jours semble encore bien hypothétique.
Merci beaucoup Brice Dugénie du service étranger de la Première Radio de France.